Slate Podcast.
Ce podcast vous est présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate.
Vous écoutez Transfert, et je m'appelle Charlotte Pudlowski, et d'abord, il faut que je vous raconte quelque chose. J'espère que vous avez bien écouté le dernier épisode, celui qui parlait de Yann et de Mathieu. Eh bien, après la mise en ligne de cet épisode, Yann l'a posté sur Facebook. Des tonnes de gens ont commenté, et parmi eux, quelqu'un qui était là, le jour où Yann et Mathieu se sont rencontrés en vrai pour la première fois, au goûter, dans leur immeuble. Il raconte qu'il se souvient de tout, des hypothèses de Yann sur ce pervers qui le regardait par la fenêtre et dont il ignorait que c'était Mathieu. Mais surtout, il raconte, cet inconnu de Facebook, ce troisième voisin, que lui-même à l'époque fantasmait sur Mathieu. Et vous savez d'où il le voyait ? Du salon de chez Yann, quand il lui rendait visite, par la fenêtre. Mais aujourd'hui, notre histoire n'a rien à voir ni avec des fenêtres ni avec des voisins, mais avec la peur de ne pas être dans la norme, du temps qui passe, du temps gâché, la peur de ne pas réaliser ses rêves, ce que l'on appelle aussi être un raté. La peur d'avouer son malheur dans un monde où l'injonction au bonheur est l'une des plus fortes. Une peur qui rejoint un désir obsessionnel, celui de vivre selon les codes, le chemin, une fiche Bristol écrite par la société et que l'on croit être sienne. Cet épisode est signé Alexandre Moniol.
En 2009, je vais voir une psy. Et ma psy me dit « Barrez-vous, il y a un loup. » On ne sait pas ce qui se passe chez les gens. On ne sait pas qui ils sont réellement. Même si on vit avec les personnes pendant longtemps, même si on ne connaît pas. Et donc, si vous ressentez quelque chose qui ne va pas, que vous n'arrivez pas à expliquer, et en tout cas qui vous tue, qui vous ronge de l'intérieur, c'est que vous avez forcément raison. Il faut suivre son intuition. Alors là-dessus, moi, je comprends pas trop, je prends peur. Je pense peut-être qu'elle a raison, mais en même temps, je suis effondrée, je suis triste et j'ai envie de la claquer, en fait, parce que je trouve que c'est trop facile de dire ça. Et donc, je suis repartie et j'ai plus voulu la revoir. Ma vision de la vie à l'époque, c'est tracer ma route, c'est de suivre ma petite fiche Bristol que je m'étais constituée avec ma petite case. Alors, première étape, j'ai mon diplôme. Deuxième étape, je rencontre mon petit mari. Troisième étape, je verrouille en me mariant ou en étant propriétaire ou en tout cas en concrétisant quelque chose. Je deviens une vraie adulte. C'est hyper excitant. Tout le monde est fier de moi, mes parents, les copains, les gens sont fiers de nous. Ça fait partie de la norme. La norme, c'est ça. En 3 secondes, le « barrez-vous », il y a un loup, me casse, elle me déchire ma fiche Bristol. À l'époque, je suis en couple avec Thibaut. Et lui, je l'ai rencontré en école de commerce, à Grenoble. Cette rencontre est en octobre 2005. Je suis assez intimidée. J'observe, je vois un jeune homme, plutôt beau gosse, qui a l'air marrant, qui sourit beaucoup, qui rigole beaucoup. Il a du charme, il est joueur de rugby. Il est ami avec beaucoup de mes amis qui font du rugby ensemble. Donc, les connexions sont faites. Il a plutôt bonne réputation, il travaille bien, il fait la fête comme moi. On se retrouve une fois suivante à une pendaison de crémaillère et c'est vrai qu'il est beaucoup auprès de moi, il cherche la conversation, on rigole beaucoup. Et puis, il fait des blagues, il me fait rire. Voilà, c'est comme ça que les choses se font, naturellement. Il me séduit. Ouais, je suis une petite jeune qui arrive à l'école, qui intéresse un grand qui quitte l'école. Et ça me met en avant, forcément. Et puis, en plus, c'est pas que c'est le chef de la bande, pas du tout. Mais son univers me convient, me plaît. Mes amis l'aiment bien. Et lui aussi a l'air d'avoir des objectifs de vie qui ont l'air assez similaires. Gagner de l'argent, c'est important. Fonder un foyer, une famille, avoir des enfants. Bon, à Paris, c'est très bien. Ça tombe bien, moi aussi. Et donc, pourquoi pas se lancer, tout simplement. On sort ensemble. Et par contre, après, ça met un peu plus de temps à avoir des relations intimes. On met entre un mois et demi à concrétiser, à passer à l'acte. Moi, au début, ça ne me choque pas parce que je me dis que le gars m'apprécie, me respecte, que je ne suis pas le coup d'un soir, que voilà, c'est plutôt positif pour moi. Ça me met sur un pseudo-piédestal. Je suis son bijou. Je ne me pose pas de plus de questions. Je me dis, bon, bah voilà, ça sera très, très croustillant quand on passera à l'acte. Lui, comme toute personne normalement constituée, voilà, me demande si j'ai déjà eu voilà, des histoires avant et si je m'étais protégée, si j'ai fait des tests, etc. Donc, je lui explique que oui, je peux faire un test contre l'HIV, etc., MST, compagnie, s'il faut, aucun problème. Et puis, bah, évidemment, moi, en retour, je lui demande la même chose. Et lui me répond que non, il n'y a pas besoin. Alors, OK. Donc, première chose un peu curieuse. Et puis, bon, enfin, finalement, moi, je fais mon test. Tout va bien. Je m'en doutais pas de toute façon. Et puis, finalement, se passent nos premiers rapports. Les premiers rapports se passent bien. Il est rentré habiter chez ses parents. Moi, je suis plutôt confiante. Et puis, de toute façon, personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui est en mode chasse ou qui est habitué à cumuler les rencontres. Je suis plutôt sur un mode de construction, d'histoire d'amour. Voilà. Donc, je ne suis pas stressée. Et dans le même sens, je me dis que finalement, c'est pas mal. Ça va me permettre de vivre ma scolarité la semaine avec mes copains, de faire ce que j'ai à faire et puis de le retrouver tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines. Bah, je change un peu de cap, en fait. Je suis étudiante la semaine, je fais la fête, etc. Et puis, toutes les 2-3 semaines, quand on se retrouve, je retrouve un adulte, quelqu'un qui rentre sur le marché du travail, on va au restaurant. Il y a des soirées d'organiser avec des personnes de son âge. Moi, j'ai l'impression de vivre un peu deux formats d'école. L'après-l'école, un peu avant tous les autres. Et puis, le pendant l'école avec mes amis. Et donc, je suis mise en avant, je suis la petite copine de Thibaut qui arrive à Paris le week-end exceptionnellement pour voir les amis, son amoureux. Je pense que je suis contente de ça sur le coup. On doit faire l'amour 2-3 fois par week-end. J'aime ce qu'on est en train de construire, j'aime l'environnement qu'on se crée. Je suis attachée forcément à Thibaut. Je suis extrêmement fière de lui, de ce qu'il représente. Je me dis que c'est le prince charmant, que le prince charmant, c'est peut-être ça. Ce fonctionnement aussi, de se voir toutes les 2-3 semaines, une fois à Paris, une fois à Grenoble, dure jusqu'à ce que je parte au Canada. Puis, peu de temps après, un soir bien arrosé, bien enivré, je lui pose des questions sur sa vie sexuelle d'avant, et puis il reste assez flou, assez vague. Et puis finalement, il arrive à me dire à 4h du matin que j'étais sa première compagne, sa première partenaire. Je l'ai mal pris parce qu'il y a eu un rapport de confiance qui a été un peu brisé. Ça m'a refroidi, il n'a pas compris. Il m'a dit, mais tu vois, c'est pour ça que je voulais pas te le dire, parce que non. Et je lui dis, écoute, le problème n'est pas que tu étais puceau et que je t'ai dépucelé. Le souci est que à l'âge de 25 ans, on ne soit pas capable d'avouer ce genre de choses. Dans mon parcours d'études, je prends la décision de partir au Canada pendant 6 mois. Je pars en août 2007. Il vient me voir une fois au mois de novembre avec mes parents. Et donc, moi, je suis complètement excitée. Hein, 2 semaines avant, je range ma chambre 10 000 fois, je la nettoie 10 000 fois. J'organise un petit périple dans le Québec. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, quand on se voit, c'est à Montréal. Je vais les chercher à l'aéroport. Bon, alors, peut-être qu'il extériorise pas trop. Mais alors, moi, mes parents, je leur saute dans les bras. Tout le monde est content, on pleure et tout. Bon, lui, je peux comprendre qu'il soit un peu... Il connaît pas trop mes parents, donc je peux comprendre qu'il soit un peu plus réservé et tout. Et je rapatrie tout le monde à Montréal. On va dîner et en fait, tout le monde tombe de sommeil parce que le décalage horaire, tout ça, tout ça. J'espère pouvoir me rapprocher de lui, savoir comment ça va, comment il va, si on peut se câliner, etc. Et ben non. Je suis restée sur la béquille. Je suis un peu déçue parce que je me dis, tant pis, je pensais lui faire plus d'effet que ça. Je me dis, c'est pas grave, c'est reporté au lendemain. Et puis le lendemain, rebelote. Et donc, le séjour continue et puis rien. J'accepte, on met un mouchoir là-dessus, on se dit, c'est pas grave, on verra. Et là où je me sens un peu honteuse, c'est quand je rentre de ce road trip-là, je les ramène à l'aéroport. Forcément, mes copains me disent « Bon, alors, ça y est, t'as pu profiter ?» Et là, je leur dis non. Un petit tunnel qui se creuse en moi, un espèce de vide, et je me dis « Bon, ok, on verra ça à la rentrée, quoi. » Lui essaye de me rassurer en me disant que beaucoup de boulot, mais tu comprendras quand tu seras sur le marché du travail. Alors ça, c'était son grand truc. « Mais tu comprends pas. Moi, je suis commerciale. J'ai du gros travail, j'ai des grosses responsabilités. Du coup, je suis fatiguée. » Ok, je peux comprendre. Mais bon, après, t'es a priori avec quelqu'un que t'es amoureux. Et puis là où il y a un truc qui me titille un petit peu, c'est que j'ai pas de souvenir particulièrement là, mais... c'est fort probable pour que ce soit déjà arrivé, c'est qu'il se passe quelque chose physiquement. C'est-à-dire que même s'il ne veut pas de moi, malgré les avances que je lui fais, etc., il se passe quelque chose physiquement. Il y a une réaction physique parce qu'il bande. Je reviens du Canada début 2008, au moment des fêtes de Noël 2007. On va se retrouver, on va sauter dans les bras comme deux amoureux... Transi, et en fait non. Je me prends une seconde gifle. Et moi j'essaye de communiquer encore une fois avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux pas de moi? C'était pareil en novembre. En gros, ça va faire plusieurs mois finalement qu'il s'est rien passé a priori parce que j'étais partie en août 2007. Et donc là, je commence sérieusement à me poser des questions. Là, ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble. Et je reste parce que malgré tout, il arrive à... Il me dit ce que j'ai envie d'entendre. T'inquiète pas, les choses vont se faire au fur et à mesure. On va atteindre nos objectifs. Un jour, on se mariera. La vie, tu connais pas. Moi, je connais. Tu comprends pas. Moi, j'ai des impôts à payer. J'ai ceci, j'ai tel souci. Et puis, il y a aussi le fait que tous les copains de l'école, tout le monde rapatrie sur Paris. Tout le monde est bien. Tout le monde est en couple depuis 2 ans et demi, 3 ans. Les gens se disent, on va se marier. Et puis, c'est super. Et on va faire des enfants et tout ça, tout ça. Et moi, j'ai envie de garder ça. Ça fait partie de ma fiche Bristol. Et puis, hors de question de sortir des clous. Et puis, j'ai pas le courage de faire autrement. Donc, finalement, je me dis, OK. Ça va s'arranger. Et puis, comme on s'engueule très fort sur ces sujets-là, il n'ose pas beaucoup le ton. Mais quand il le fait, je crois que je me dis après tout, mais t'es trop conne. Il a raison. J'arrive à m'auto-convaincre. Je parle avec mes copines. On est trop contentes. On se prétend être hyper indépendantes de nos mecs en buvant un coup de rosé le soir en se retrouvant et en parlant de nos problèmes. Et voilà, sauf que moi, à ce moment-là, je n'ose pas trop encore en parler de ces problèmes-là. Je préfère parler des chaussettes qui traînent. De la cuvette des toilettes qui est sale, plutôt que de dire les filles, il faut que je vous avoue un truc. Moi, ça fait 6 mois que j'ai pas baisé, quoi. Mais j'avais repéré un truc. J'avais repéré chez ses parents qu'il y avait des mouchoirs qui traînaient. Finalement, j'ai peut-être vraiment mis penchée sur ces mouchoirs. Alors, un été, je récupère Thibaut et son pote à Strasbourg chez mes parents. Et on décide de passer un grand week-end ensemble. Mes parents ne sont pas là. Et le soir, on se couche. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il réagit. Il a l'air excité. On se caresse, on se câline. Tout fonctionne bien, mais il me repousse. Il me met un stop. Moi, je suis hyper vexée. Je ne comprends pas. Je lui demande s'il veut qu'on mette une capote, si quoi que ce soit. Et finalement, le lendemain, chacun se réveille. Moi, je suis un peu vexée, je suis un peu gris, je comprends pas. Je vais prendre mon petit-déj. Je déjeune avec le copain en question. Je petit-déjeune avec le copain en question. Et puis Thibaut. Et Thibaut décide de monter se laver. Et pendant le petit-déj, le copain en question me parle. Et là, en gros, je pars complètement. Et en gros, j'ai une intuition qui naît. Et je lui dis, écoute, je monte me laver. J'écoute mon intuition. Je monte les escaliers. J'entends l'eau qui coule dans la salle de bain. Donc Thibaut était donc en train de se laver. Et là, je décide de regarder par le trou de la serrure. Et là, je vois Thibaut en train de se masturber. Je reste interloquée, je tape à la porte. Je dis, mais Thibaut, tu fais quoi là ? Oh, ça va, je prends ma douche, c'est bon. Et là, il est en train de tenir son kiki parce qu'il était un peu stressé. Il voyait que j'étais derrière la porte, donc il ne savait pas que je le voyais. Et je lui dis, ouvre-moi, ouvre-moi, ouvre-moi. Il est agacé parce que je le coupe dans son élan. Et je lui dis, ouvre-moi, non, c'est pas le moment, je suis dans le bain. De toute façon, je lui dis, non, t'es pas dans le bain, je sais très bien ce que t'es en train de faire, ouvre-moi la porte. Il ouvre la porte, il met la serviette sur son zizi, qui était encore qui bandait, en fait, tout simplement. Et là, il me dit, mais c'est pas moi. Et je lui dis, mais comment ça, c'est pas toi ? Je lui prends la serviette, il est tout nu, comme un verre, complètement excité. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais je t'ai vu, qu'est-ce que tu fais ? C'est pas moi, c'est pas moi. Mais c'est pas toi quoi ? Enfin, c'est donc ça ? C'est ça ? C'est pour ça, hier soir ? Hier, tu me mets un stop ? Ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vu ? On n'a peut-être pas fait l'amour depuis 2 mois ? Tu me mets un stop et tu fais ça ce matin, mais pourquoi tu m'appelles pas pour qu'on se lave ensemble ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, quoi ? Et là, je commence à me dire, ah là là, il y a tout ça qui rentre en jeu. Je commence à construire une histoire, à comprendre les liens, à faire des liens. Puis en plus, je suis hyper frustrée et aigrie de la vie, et je deviens clairement une mal baisée, quoi. Donc je suis pas bien, quoi. Je suis pas bien, je suis aigrie, les gens... dès qu'on me parle d'un truc, tout est nul. Dès que quelqu'un me parle de son bonheur ou amoureux, à chaque fois, je suis la première à dire « Mais non, c'est bizarre, ça va pas durer ton truc », alors que je suis juste hyper envieuse de ces personnes-ci. Je deviens peut-être Madame Tout-le-Monde. Hein. De toute façon, c'est la vie, c'est comme ça. Je vais continuer dans mon petit travail, dans mon petit train-train. Et puis, le jour où on aura des enfants, peut-être que finalement, ça ira mieux, parce que pour avoir des enfants, l'Immaculée Conception, j'y crois pas. Donc, à un moment donné, il faut faire des choses. Donc, peut-être que ça reviendra à ce moment-là. Et pourtant, fin 2009, on décide d'acheter un appartement en banlieue parisienne, un petit pavillon dans un bled qui nous permettra de faire une super plus-value lors de la revente de l'appartement, parce que ça fait partie des objectifs de la fiche Bristol. Je continue, malgré tout ce mal-être que j'ai, ces questions que j'ai, les questionnements, tout ce que je peux découvrir sur Thibaut, même si je n'ai pas de réponse, je suis dans ma ligne de conduite que je me suis créée en arrivant à l'école. Je ne vais pas déroger à tout ce que je me suis mis dans la tête. Je dois me marier bientôt, avoir des enfants avant 30 ans, parce qu'après, ça fait trop tard, tout ça. Et puis finalement, dans l'environnement, on n'est pas forcément amoureux de son conjoint, mais on est aussi attaché à son environnement, qu'on se crée, les amis, tout ça, et puis la pression, et puis tout le monde parle de mariage, d'avoir des enfants. Donc là, tout le monde est hyper content pour nous. Vous allez acheter un appartement, c'est super, les gens nous aiment pour ce qu'on est. Ça constitue mon bonheur. Non, on ne baisse pas plus parce qu'il y a quand même le stress de tout ce qui est banque, notaire, le stress lié à l'achat d'un appartement. Donc moi, je me dis tout simplement que c'est normal du coup d'avoir moins de libido. Et puis un truc aussi, c'est que c'est comme la faim, le sexe. Hein. Quand on n'a pas faim, quand on ne mange pas pendant longtemps, on n'a plus faim. Donc moi, au fur et à mesure, ma libido, elle diminue aussi. Je deviens malheureuse j'ai une idée. Je me dis, tiens, je vais aller voir ma psy. Je lui présentais la problématique et là, elle me dit... Barrez-vous, il y a un loup. Et quand j'en parle, parce que je commence à en parler à des copines à ce moment-là, on me dit, mais Pauline, c'est à toi de faire des choses. Essaye chez toi des sous-vêtements, essaye de trouver des nouvelles solutions, des nouvelles positions, de faire ceci, cela. Sauf que moi, quand j'en parle, c'est pas de ça que j'ai envie d'entendre. Parce qu'évidemment, tout ça, j'ai tenté. Moi, j'en ai marre de me retrouver à boire des verres avec mes copines et au bout de 3 verres de vin, un peu pompette, de me retrouver en pleurs devant mes copines parce que je me sens malheureuse. Mais pourtant, je suis en train de constituer ma fiche Bristol, toujours ma liste de conduite. Donc, je me dis qu'on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Donc, il y a forcément un moment donné où ça ne va pas aller, il faut l'accepter. Et du coup, je suis triste, je pleure, je suis gris, la nuit je me réveille, je fume une clope, je fume deux clopes, je me dis, oh, après tout, recouche-toi, ça ira. Je suis triste, mais il ne faut pas que ça se sache. Et au printemps 2010, on continue notre vie. Les choses ne se sont pas arrangées particulièrement. Je me prépare un matin, je me lève, je prends mon petit-déj, je me lave, je me prépare pour aller au travail. Entre-temps, je décide de faire un crochet par les impôts pour régler deux, trois choses qui n'allaient pas. Et je devais apporter deux documents pour aller aux impôts. Et puis, je ne sais pas si c'était un acte manqué, je réalise sur le chemin que j'oublie le papier indispensable pour régler mon problème avec les impôts. Donc, je décide de faire demi-tour et en même temps, quand je décide de faire demi-tour, je me dis « Tiens, c'est marrant, ça m'arrange de faire demi-tour, de retourner à la maison récupérer mon papier manquant. » Thibaut était à la maison en train de se préparer, a priori, pour aller à son travail. Je reviens à la maison et là, je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment qu'il va se passer quelque chose. J'ai le sentiment que je vais voir un truc que j'ai pas envie de voir. Et donc, je rentre dans l'immeuble, je tape mon code, je commence à trembler, à transpirer. Je me dis, oh là là, c'est pas possible, je sens que je vais y aller là. Je mets la clé dans la serrure, je tremble. Je veux surtout pas qu'il m'entende, je veux les pieds, en fait, l'espionner. J'ouvre la porte, j'entends rien. Je me dis, bon. Je marche jusqu'à la chambre, j'ouvre la porte en grand. Et là, il était en train, une nouvelle fois, de se masturber devant un film. Et là, il me voit, je le vois, et il me dit « c'est pas moi ». Là, j'éclate de rire, je me retourne, je vois la Bible. On avait une Bible qui était là. En fait, cette Bible, elle est là parce que ses parents nous l'avaient donnée, prêtée, en prévision d'un mariage. Donc, je prends la Bible et je lui envoie dans la tête. Et il était là avec son gag à l'air. « C'est pas moi, j'ai rien fait ». Il bandait encore, c'était fou. Et je l'insulte, je lui explique qu'un jour, de toute façon, je le quitterai. Je pars hyper triste dans tous mes états. Et je me dis, bon, ça fait plusieurs fois que ça arrive. Je fais la tête pendant une semaine, je lui parle pas pendant une semaine. Et j'arrive à l'excuser. Puisque finalement, une semaine plus tard, il me demande en mariage et que je dis oui. Je ne vois plus le problème, parce que je vais me marier. Et là, tous les gens sont hyper heureux pour nous, les gens sont émus. On a des amis qui pleurent lorsqu'on leur annonce qu'on va se marier. Les parents sont libérés, délivrés. Je choisis mes témoins, et c'est une année de préparation de mariage géniale, parce que toute l'attention est concentrée sur moi. Et en fait, l'amour que je n'ai pas dans mon couple, je le reçois de la part des amis et de la famille pendant la préparation de mariage. Alors lui est très habile parce que c'est un peu comme un magicien ou un manipulateur. Enfin, de toute façon, le magicien est manipulateur. Mais encore une fois, c'est j'attire ton attention sur quelque chose de nouveau pour que tu oublies ce qui ne va pas. Il doit se dire, elle ne peut pas faire marche arrière parce que de toute façon, on se marie et on est propriétaire d'un appart. Et c'est pas possible. Voilà, je verrouille au fur et à mesure. Il cadenasse tout ça. Enfin, lui, il pense cadenasser tout ça. En avril 2012, je décide d'aller voir la gynéco. Ça fait partie de la suite des choses. On s'est mariés, maintenant on va faire des enfants. Donc je décide d'aller voir la gynéco pour concrètement qu'elle m'explique voilà, quel est le programme à suivre, le planning, tout ça. Et pendant qu'elle m'ausculte, qu'elle me donne des conseils, qu'elle me dit « il faut faire l'amour 4 fois par semaine pour pouvoir lever les jambes, mettre les jambes comme ci, prendre tel médicament pour être sûr que vous ayez des enfants très rapidement. Oh » Je me dis « mais c'est pas possible, j'ai pas du tout, c'est pas du tout ce dont j'ai envie. » Donc j'écoute les petits conseils, je la regarde. Et là, j'ai une voix qui me dit « barre-toi, casse-toi, ça va pas du tout là, barre-toi, ouais c'est ça, faut que je me barre ». Là, j'ai la voix de la psy qui revient « barrez-vous, barre-toi, il y a un truc qui va pas, non ». Je pars de la gynéco, je la remercie bien, je prends sa petite ordonnance, je la déchire, je la mets à la poubelle. Et quand Thibaut rentre le soir, je lui dis « tiens, je suis allée voir la gynéco ». « Ah oui, super, alors, petits enfants, parce qu'il faut enfanter pour verrouiller encore plus hein ». J'ai dit, mais accroche-toi, parce qu'il faut faire l'amour 4 fois par semaine. Hein, parce qu'à l'Immaculée Conception, encore une fois, je n'y crois pas. Et là, il va falloir travailler. Hein. Pas de problème. Ah, bah dis donc. Du coup, on s'y met quand, là? Parce que dis-moi, il faut que j'écarte les jambes maintenant, là. Ah bah, on peut réfléchir le mardi, le jeudi, voilà. Donc là, clairement, j'éclate de rire, mais je suis très triste, bien entendu. Je me réveille la nuit, je fume des clopes, je pleure. Je me dis, mon Dieu. Et là, en fait, ça m'avait fait une révélation. Je me dis, je vais avoir 30 ans. Ma fiche Bristol, c'était l'objectif, c'est d'être heureuse. Et là, en fait, c'est naze. Clairement, là, je me pose les vraies questions et j'ai pas peur de les affronter sur ce truc-là qui va pas bien, là, ce truc qui grossit en moi qui va pas bien, qui ne correspond pas. Moi, je suis pétillante, je crois au prince charmant, j'ai envie d'être amoureuse, j'ai envie de faire l'amour, j'ai envie de rire, j'ai envie d'être comme une enfant, une princesse qu'on m'aime, j'ai envie qu'on me touche, j'ai envie qu'on me dise 3 fois par jour je t'aime, j'ai envie qu'on m'emmène quelque part, qu'on me dise je te fais une surprise, on va manger là, puis on regarde pas ça, puis on trace la vie, j'ai envie de ça, j'ai envie de choses, d'aventure. Et à défaut d'avoir ça, j'ai pour mon anniversaire, qui sera fêté une semaine plus tard, pourquoi ? J'en sais rien. Bah, j'ai de la viande hachée, avec la poudre qu'on met dans les faritas là, au Del Paso, avec du gruyère râpé. Et surtout, j'ai cette annonce que j'entends. Et en plus, on va fêter ça au Fanta. Et puis finalement, une semaine après, nous un an de mariage, je le quitte. Je lui annonce que je pars, que je veux divorcer. Et il comprend pas tout de suite, il croit que je rigole. Il me dit « Mais attends, on est mariés, comment tu peux partir ? C'est verrouillé tout ça ?» Et puis après une demi-heure de conversation, il finit par comprendre que je suis sérieuse. Là-dessus, il appelle ses parents. Il pense peut-être que ça va me faire peur. Bah, je ne bronche pas, je reste stoïque. Indifférente, c'est mon choix, c'est ma décision. J'ai tout tenté pour essayer de lui tendre des perches. J'ai essayé de lui parler, j'ai essayé de trouver des stratagèmes pour l'exciter. Je me suis inventé un amant. Un jour, je me suis dit, tiens, je vais lui faire croire que j'ai quelqu'un. Donc, je me réveillais à 1h du mat pour m'envoyer des propres textos en mettant le portable sur vibreur. Je me suis acheté de la super belle lingerie. Il a absolument rien remarqué. Maintenant, je suis sûre, je veux partir, je veux faire ma vie, je veux être libre. J'en ai marre de cette boule-là. Non, et puis c'est l'intuition, c'est comme ça. C'est maintenant, l'année prochaine, j'ai 30 ans, je vais être heureuse pour mes 30 ans. Voilà, maintenant, ma vie, elle est à moi, je la construis, et puis tant pis, j'assume. Et une semaine plus tard, je suis venue récupérer des affaires à la maison. Et on s'était donné rendez-vous, il avait besoin de questions. Il arrive très bien habillé, avec un bouquet de fleurs, avec un petit papier, plié en 10, il déplie. Et là, il me dit, t'as peut-être envie de savoir pourquoi tout ça ? Je lui dis, écoute, oui, si tu veux me parler, moi je t'écoute, il n'y a pas de problème. Et là, il me dit, écoute, je t'avoue, quand t'es parti au Canada faire tes études, en 2007, bah, tu te souviens, c'est toi qui m'as dépucelé, oui. En fait, j'ai développé une addiction à la pornographie. Je suis soulagée parce que je refais toute l'histoire et je me dis, bon, c'est bon, je suis pas folle. Me toucher, en fait, pour lui, c'était toucher comme quelque chose de très sacré et c'était me salir. Parce que pour lui, ce qu'il voyait dans les films porno, il pouvait pas le reproduire auprès de moi parce que c'était sale. Mais en même temps, ça va pas bien du tout parce que je me dis, il savait qu'il y avait un truc qui n'allait pas, il savait que j'avais raison. Il m'a maintenue pendant 5 ans en me regardant droit dans les yeux, que j'étais pas normale, que j'étais folle, que je perdais la boule, que je me faisais dans ma tête, je me construisais des idéaux qui n'étaient pas les bons, que j'inventais plein de choses. Et donc, dans un sens, je suis hyper heureuse. Dans un autre, je me dis, mais comment on peut faire du mal à... J'ai raison, mais au final, faut l'encaisser le truc, quoi. L'état d'esprit dans lequel je suis est assez troublant. Je ne sais pas si c'est une sorte de déception parce que je m'attendais à un scoop vraiment grandiose, mais quand vous vivez ça et que vous avez un espèce de sentence qui tombe là, comme ça, moi, je suis au fond du seau. J'ai l'impression de vivre un cauchemar et cette nouvelle-là, elle arrive un peu comme une illumination, un peu comme l'apaisement, la fin. Je vois un peu le bout du tunnel et c'est ça dont j'ai besoin. Et j'arrive chez ma sœur, je croise mon beau-frère, ma sœur n'était pas encore là. Et il me voit, j'étais pas très bien quand même. Je lui dis, Nico, faut que je t'annonce un truc de fou. En fait, Thibaut, il est addict à la pornographie. Alors, il se marre, parce que lui, c'est sa façon d'extérioriser. Hein. Puis il me dit, attends, on va googliser. Et puis là, on se met à googliser, à regarder ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, on voit que voilà, c'est effectivement quelque chose d'assez répandu chez les hommes, que c'est pas du tout démocratisé, hein, bien entendu, que pour autant, tu peux être addict à la pornographie et continuer à faire l'amour à des femmes. Pour autant, tu peux être addict à la pornographie et ne toucher personne. En tout cas, toujours est-il, c'est que ça détruit et ça fait un petit bazar quand même chez les femmes qui sont victimes de tout ça. Et qu'en gros, je vais avoir du pain sur la planche pour me reconstruire. Et je rencontre quelqu'un au travail, Louis, avec qui je m'entends très bien, et qui, lui, a une situation un peu comme la mienne, sans les problèmes de sexe. C'est-à-dire qu'il est dans sa vie avec une femme depuis 7 ans. Il décide de se marier. Le mariage est prévu pour l'été 2013. Et en fait, il n'est pas bien. On échange. Il me parle de conformisme, il m'explique qu'il ne l'aime pas, que même si c'est quelqu'un de très important pour lui, c'est pas sa vie, il voit pas ça comme ça. Du coup, moi, il me questionne beaucoup sur l'effet de ma décision dans ma vie, comment l'entourage l'a pris, comment j'ai pu me reconstruire. Je lui explique que tout ça, c'est complètement matériel, que si lui a l'intuition que son mariage ne pourra pas fonctionner, qu'il le fasse avant, qu'il ne fasse pas comme moi, j'ai fait cette erreur, j'avais des intuitions, je l'ai jamais suivi. Et lui, par contre, qu'il le fasse et qu'il arrête le mariage avant la date du mariage pour limiter la casse. Tu sais que t'es malheureux. Si tu veux partir, dis-le maintenant ou tais-toi à jamais. Le curé dit, pendant la cérémonie religieuse, si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il lève la main ou se taise à jamais. Et là, c'est pareil. Soit tu te barres, soit tu te tais à jamais. Et t'as pas de te plaindre si jamais tu pars pas. Et un jour, il m'appelle, et il me dit « je l'ai quitté ». Je ne cache pas que je suis contente, je suis fière de lui, je suis contente de sa décision. Je trouve ça hyper, hyper bien, hyper couillu, je ne m'y attendais pas. Puis très rapidement, il me propose qu'on se voit et qu'on brunch ensemble. Donc on s'est retrouvés très rapidement, on est sortis ensemble, on a flirté ensemble, on s'est très vite aimés. On a décidé de faire un tour du monde, un projet à deux qui nous tenait à cœur, chacun respectivement dans nos vies. Et donc du coup, là, on s'est dit, après tout, on a déjà eu des intuitions dans notre vie. Là, on a la même intuition qu'il faut, si on ne le fait pas, c'est foutu, on n'aura pas le droit de se plaindre. C'est maintenant qu'il faut le faire, c'est maintenant qu'on veut le faire. Et donc du coup, on décide de partir, de le faire. Et on est revenu, on est hyper heureux, on est hyper content, on va se marier, on n'a aucun regret. Si j'avais pas eu cette histoire-là, si j'avais pas eu ma feuille Bristol initialement, je me serais pas plantée et j'aurais pas reconstruit ma vie, j'aurais pas rencontré lui, je serais pas partie faire le tour du monde et je me marierais pas à Marrakech. Donc elle est là, je l'observe et je me dis, oh là, ma fiche Bristol, c'est qu'est-ce que je ne veux pas? Elle est importante, ma fiche Bristol, mine de rien, maintenant. Je la vois très différemment.
Cet épisode était signé Alexandre Moniol, avec Maxime Daoud pour la musique, Mélissa Bounois pour la direction musicale et Jean-Baptiste Aubonnet pour le mixage. Et si vous avez des histoires, n'hésitez pas à nous écrire podcast@slate.fr. À très vite.
Ce podcast vous a été présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone avec l'offre d'essai. Le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate.